notamment pour avec ses chaussures à gomme oh, excellente nous emmener vers un autre jeu, n'est-ce pas les sprites? Il est 23h14, je te laisse donc la parole.
Ok, je vais vous parler de la campagne qui s'appelle l'affaire Armitage. Alors à la base, c'est une campagne qui a été prévue pour Trail of Tulu, donc l'autre déclinaison du jeu Tulu sorti, enfin ressorti et traduit par le Septième Cercle. Alors Trail of Tulu, pour couper court, c'est une campagne qui s'adapte très 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 facilement au mode sans détour système Chaosium. Donc il y a vraiment des capillarités. C'est un truc qui est sorti relativement, qui est passé relativement inaperçu et sorti en 2010. Que dire d'autre? C'est une campagne qui est relativement petite dans le format, enfin courte, qui fait 126 pages. Illustrations comprises. D'ailleurs, à ce sujet, la maquette est vraiment intéressante avec des illustrations à mi-chemin entre la photo et la gravure réaliste. C'est très convaincant, très suggestif. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, l'affaire Armitage, c'est presque pas une campagne au sens où on l'entend habituellement. C'est plutôt l'illustration d'un concept. Même d'une définition que j'aime bien sortir de temps en temps, qu'on trouve dans un jeu de rôle qui s'appelle, alors laissez-moi me souvenir, ouais, ça me reviendra. le bug, qui dit que pour certains, le jeu de rôle, c'est en fait, enfin, la manière dont on peut faire jouer efficacement une partie de jeu de rôle, c'est de la penser en termes de jeu de base. Oui, c'est Unknown Armies. La définition qui est donnée dans ce jeu de rôle, c'est que une bonne partie de jeu de rôle, c'est une partie qui se fait comme un bluff de jazz, dans lequel le meneur de jeu va commencer à lancer une idée, très simple. Et derrière, les joueurs vont rebondir là-dessus et, comme si chacun était un instrument, rajouter quelque chose pour finalement faire un ensemble cohérent. Et c'est aussi une manière de penser les campagnes et les scénarios centrés autour des joueurs et non pas autour d'une idée directrice clairement formulée. Par exemple, dans une campagne dont on a déjà parlé, pour ne pas la citer, les montagnes hallucinées, il est clairement déterminé dans l'ouvrage, dans la campagne, comment va se terminer la campagne, à peu de choses près, hein, à quelques virgules ou quelques variations près. Ce n'est pas le parti de l'affaire Armitage. Donc si vous voulez estimer ce que vaut l'affaire Armitage en termes de partie, en termes de jeu, je pense qu'il faut déjà commencer par ne pas la comparer à d'autres campagnes existantes, parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit. Alors, comment vous expliquer ce que c'est? La campagne Armitage, je pense que la meilleure figure, la meilleure illustration, c'est de vous expliquer qu'il s'agit d'une boîte à outils, mais d'une boîte à outils avec des outils très performants et très spécialisés à l'intérieur. En gros, c'est une campagne dont la structure est pensée de manière entièrement modulaire. Il n'y a pas de fin écrite, il n'y a pas de milieu écrit, il y a juste une situation de départ qui est proposée. Alors vous me direz, mais comment tout ça tient debout? Parce que c'est informe, on peut partir dans tous les sens, je vois pas de quoi on parle. Alors malgré tout, il y a une ossature dans cette campagne. Il y a une sorte de squelette sur lequel le meneur de jeu va pouvoir agencer des concepts, des situations, des personnages, des lieux, des rencontres, des objets magiques, du Cthulhu, du mythe, des thèmes. Alors cette structure, c'est quoi? C'est un certain nombre d'aides de jeu qui se présentent comme des lettres, du moins des manuscrits. Et alors je vais vous faire le pitch de l'affaire Armitage. Les personnages, bon, il y a plusieurs moyens de faire rentrer les personnages dans le jeu. Soit on considère que c'est un groupe de jeu de personnages qui a aidé le professeur Armitage jadis. On peut aussi considérer qu'il s'agit de parfaits inconnus en trouvant des moyens pour les insérer. Peu importe. Le professeur Armitage, donc celui des œuvres de Lovecraft, dans la Nouvelle-Angleterre, un jour tombe dans un document d'étude sur un papier qui est assez alarmant écrit de manière assez décousue par une personne visiblement agitée, qui parle de plein de choses. C'est décousu et on a du mal à comprendre. Ce document expose un futur apocalyptique dans lequel il est en train de se passer quelque chose, ou il se passe quelque chose de parfaitement abominable. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce document est écrit de la main du professeur Armitage. Il n'en a aucun souvenir. Donc, on est tout de suite dans une espèce de... Enfin, on a des thématiques qui sont posées. Le paradoxe temporel, la
Voyage dans
folie,
le temps, Marty.
le voyage dans le temps, tout à fait. Mais après, avec le spectre du est-ce que le professeur Armitage est fou dans le monde contemporain, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un dans le futur qui se fait passer pour le professeur Armitage? Est-ce que c'est un faussaire? Enfin, toutes les hypothèses sont possibles. Et là-dessus, la campagne propose de rythmer le jeu en faisant parvenir ponctuellement aux joueurs ou à des personnes proches d'eux des documents qui proviennent eux aussi, enfin, qui prétendent provenir du futur. Et un tout cohérent commence à se former à la lecture de ces documents. De grandes thématiques, on y parle d'objets, on y parle de personnes qui existent vraiment à l'époque des joueurs, avec des lieux qui existent vraiment à l'époque des joueurs, on leur donne des conseils, on leur demande de se méfier de certaines personnes, il y a des hésitations, parfois on a l'impression que le professeur Armitage est en train de devenir fou et qu'il en a conscience et s'adresse à lui-même dans le passé. Bref, on est sur une espèce de mise en abîme qui vraiment donne le vertige. Et là, vous me direz, oui, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans?
Comment
Alors,
est-ce qu'on fait pour pas tomber là-dedans?
très bonne question, ça. Alors, tout simplement, en pratiquant le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est pas une campagne qui est donnée à tout le monde. Je pense vraiment qu'en l'abordant et qu'en commençant chaque partie, il faut accepter qu'on ne sait pas vers où on va aller. Et donc, il ne faut pas chercher à prévoir ce qui va par nature être chaotique et imprévisible. Un des thèmes principaux de cette campagne, c'est son aspect chaotique. Et vraiment, on surfe dessus. Aussi bien dans le flux d'informations qui viennent aux joueurs, dans l'attitude des personnages, que dans les entités qu'on rencontre, parce qu'il est bien sûr question d'entités comme Azathoth, le Roi en Jaune, Chimnigorath et d'autres. Et le MJ va pouvoir moduler les outils qui sont contenus dans cette campagne pour proposer une expérience de jeu à ces joueurs qui est réellement personnelle et qui est complètement en fonction de leur choix et on va dire, des envies du moment du meneur de jeu. Quels sont ces outils? Alors là, on a du costaud. On a déjà beaucoup de passages en début de campagne qui expliquent, qui prennent un peu le meneur de jeu par la main, le gardien par la main, pour lui dire. Attends, n'aie pas peur, on va t'expliquer comment aborder chaque partie, comment aborder le document, comment les traiter. On va te résumer tous les indices particulièrement importants que les joueurs vont déceler dans les indices. Les liens entre eux. On va aussi t'écrire proprement l'aide de jeu d'une manière lisible à un endroit. Après, il y a beaucoup de conseils sur l'improvisation pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de rappels sur l'époque et on répond vraiment à des questions qu'un MJ débutant ou avec de la bouteille peut se poser. Après ça, on a encore du lourd. On a 43 personnages qui sont proposés avec un truc que je trouve qui est inédit et qui est vraiment intéressant. Alors déjà, bon, bien sûr, ces personnages sont pas des personnages creux du type le flic du coin de rue. Ils ont tous une psychologie. Ils ont tous des petits tics de langage qui sont proposés, des tics d'attitude. Et systématiquement, on pioche dans ce qu'on a envie. Ils ont des noms et des noms de famille. Et selon le moment, on peut piocher un nom, un autre. Ce qui fait que on peut, d'une campagne à l'autre, on peut même imaginer faire jouer cette campagne à deux groupes frontalement et avoir deux expériences de jeu qui sont fondamentalement différentes. Et aussi, ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'on propose trois manières de les présenter aux joueurs. Une manière hostile, une manière amicale, une manière neutre. Et pour chaque proposition, on a un paragraphe assez conséquent qui décrit comment le personnage pourrait poser des enjeux aux joueurs, pourrait les assister, ou bien pourrait juste être une personne insaisissable, on ne sait pas trop. Quelles sont ses motivations? Après, on a des organisations qui sont proposées, il y en a 12, avec aussi l'aspect est-ce que l'organisation va mettre des bâtons dans les roues des joueurs ou est-ce que l'organisation va l'aider? On a des lieux, en l'occurrence 22, bon, avec une présentation, enfin, c'est des lieux qui sont intéressants, on a des bases militaires, on a des cimetières, on a des églises, des terrains vagues, etc. Et bon, après, pour les MJ qui ont envie d'avoir un peu d'inspiration, on y propose systématiquement une description qui est inquiétante et une description qui est plutôt neutre, rassurante. C'est un peu inédit, ça peut donner pas mal d'idées. Après, on a aussi la même chose qui est proposée pour des objets magiques ou des grimoires. Donc systématiquement, sous un aspect modulaire, on a aussi la question de certaines entités sur lesquelles on a du mal un peu à se positionner à la lecture des documents. Par exemple, les énigmatiques frelons de Möbius ou les larmes d'Azathoth. Et on nous propose chaque fois, avec beaucoup d'intelligence, différentes interprétations possibles pour le meneur de jeu, qu'il pourra lui-même reproposer à ses joueurs. Et enfin, on a 50 pages d'aides de jeu, vraiment conséquentes, avec des conseils sur la manière dont on peut les exploiter en jeu. C'est-à-dire qu'on va pas forcément donner 3 pages A4 à des joueurs écrits en pattes de mouche, avec des petites annotations et des dessins, en pleine séance de jeu, parce que ça casse le rythme. Donc on propose souvent des méthodes pour couper les séances de jeu et proposer les sets de jeu aux joueurs entre les parties. Suite à ça, pour ceux qui ont du mal à se localiser par rapport à l'intrigue, vers où avancer, quelle puissance, quelles entités on met en jeu, est-ce qu'on en met en jeu ou pas, quelles interprétations donner, il y a des propositions d'interprétation qui sont faites pour chaque document. Par exemple, on vous fait, en fait, on vous brosse un synopsis. Il y a un synopsis qui est proposé et qui se tisse à travers les différentes aides de jeu et qui est écrit, qui est rédigé. Donc, pour les gens qui seraient vraiment paumés, on a déjà une intrigue qui a été prépensée avec beaucoup de possibilités d'en dériver. Alors, je vais m'orienter vers la fin. Sur le retour de jeu que j'en ai, je n'ai pas eu l'occasion à ce jour de faire jouer cette campagne. Néanmoins, je m'en suis beaucoup inspiré pour faire jouer quelque chose actuellement, enfin une campagne à des amis. Mais je discutais toutes les semaines avec une personne qui la faisait jouer et son retour m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et celui comme en ont fait ses joueurs était aussi saisissant. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un sens à ce que les joueurs faisaient, beaucoup plus que dans d'autres campagnes. C'est eux qui orientaient clairement l'intrigue. On pouvait rebondir sur leurs intuitions qui étaient exprimées à table, ce qui donnait vraiment une autre dimension au jeu. Et ce qui avait de génial, c'était cette espèce de notion de challenge à chaque partie, pour le meneur de jeu, comme pour les joueurs, enfin, surtout pour le meneur de jeu. Il ne savait pas vers où il allait être amené par ses joueurs, mais s'il connaissait un petit peu les outils du moment. Donc, dans l'espace géographique autour des joueurs, les personnages qu'ils étaient censés rencontrer, les aides de jeu sur lesquelles ils allaient tomber à une ou deux séances près, il y avait vraiment un plaisir de manipuler tout ça pour proposer quelque chose qui avait du sens. Et c'est une campagne. Enfin, la personne avec qui j'en ai discuté y a fait jouer pendant 1 an et demi sans essoufflement, ce qui m'a vraiment marqué. Avec un final vraiment grandiose et beaucoup de petits exotismes du type session de jeu Delta Green, passage éclair dans les contrées du rêve, c'est pour toi, Vonvre, et notamment finish apocalyptique dans un monde futuriste, enfin un bref flash. C'est quelque chose dont la dimension m'a vraiment saisi. Voilà. Alors, les inconvénients, les avantages immédiats, en tout cas ceux que je retiens, avantage, c'est une campagne qui est extrêmement modulaire, qui est rejouable, je vais pas dire à l'infini, mais extrêmement rejouable. Et enfin, il y a un réel propos qui est de suivre les joueurs et de s'adapter à ce que eux font, et non pas de proposer aux joueurs de découvrir un chemin linéaire qui a été tracé pour eux. Forcément, les inconvénients qui sont pendants, c'est pas une campagne qui va convenir à tout le monde, et là je parle surtout des gardiens. C'est une campagne qui demande un minimum de préparation entre chaque scénario, mais attention, pas une préparation extrêmement importante. À partir du moment où on a lu le livre 2 fois, on a en tête les différents outils qui peuvent être utilisés, et ils sont rédigés pour être exploitables même pendant le jeu, les références sont assez évidentes. Donc, pour revenir, c'est une campagne qui, bien sûr, va correspondre aux gardiens qui ont quand même envie un petit peu de mouiller le maillot, de suivre leur campagne et ce que font leurs joueurs, de s'intéresser à ce qui peut se passer derrière, et qui demandent naturellement un peu de talent d'improvisation et ou de prise de notes. Voilà. Avec des joueurs créatifs, je pense qu'il y a moyen d'atteindre vraiment des sommets de plaisir de jeu. Je vous laisse la parole.
Réveillez-vous, c'est l'heure.
Désolé.
Alors là, moi, tant que je suis chaud là par rapport à utiliser prise de notes et tout ça, je dirais qu'attends, le piège qui doit pouvoir, où on peut en tant que MJ peut-être se faire un petit peu avoir, c'est que justement, comme on n'a rien d'écrit, rien de. Enfin, voilà, rien de prédéfini, qu'on est un petit peu dans. Ben, enfin, pas dans l'invention, mais dans. Enfin,
Dans le bac à sable, quoi.
ouais, on fait un petit peu dans un petit peu dans le bac à sable. Est-ce que vu que les joueurs eux prennent des notes, est-ce qu'enfin il est quand même assez important côté MJ de prendre des notes et de pas se laisser trop divaguer son imagination et finalement se retrouver piégé par les notes des joueurs. Est-ce que enfin je sais pas si je me suis bien exprimé, mais est-ce que ça pourrait pas être un piège justement
Que les joueurs finalement, en prenant beaucoup de notes, puissent te piéger en disant mais attends, il y avait une référence la dernière fois à tel.
vu qu'on n'a pas de ligne directrice et que la ligne directrice elle se fait au fur et à mesure quoi donc alors faut bien se souvenir de tout ce qu'on fait de tout ce qu'on a fait quoi mais est-ce que finalement on peut pas se faire piéger au bout d'un moment quoi?
Alors, la campagne aborde cette problématique, notamment de manière écrite, dans le sens où elle incite à rebondir sur les erreurs qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que si maintenant, admettons, t'as pas pris tes notes correctement, ou pendant entre deux sessions de jeu, t'as pas relu les notes de tes joueurs, ce qui peut être une manière intéressante de prendre des notes, il te propose de dépasser ça. C'est-à-dire, voilà, tu dis quelque chose, tout d'un coup tu dis une bourde, tu te trompes de prénom, et ben les joueurs vont te cueillir. Ah mais attends, elle s'appelait pas comme ça, elle s'appelait pas Brooke, elle s'appelait Shelly. Et ben tu rebondis dessus, et ben non. Non, elle te confirme qu'elle s'appelle Brooke. Et là, pof, tu sors l'idée d'un sosie maléfique, d'une anomalie temporelle, et justement l'idée c'est de rebondir dessus.
Ok,
Ça,
alors.
après, ça peut être le charme de justement de masteriser de cette manière-là, quoi. D'essayer de, ben, enfin, d'essayer de rebondir sur ce genre de choses, quoi.
Oui, clairement.
Bah, non, tu t'attends à ce que j'aille pas forcément dans ton sens, des
J'attends ça, oui.
sprites. Déjà, est-ce que tu peux jouer si t'es fatigué?
Tu parles du meneur de jeu?
Ouais, imaginons, voilà, t'as prévu une séance. Bah voilà, t'as eu ta journée de boulot, t'as ta semaine de boulot, t'es claqué, est-ce que tu t'annules ou tu peux jouer quand même? Parce que moi je sais
Alors.
qu'il y a des parties où je me repose beaucoup sur le scénar parce que bah tu peux jamais être au top à chaque fois quoi.
Tout
J'ai
dépend.
l'impression qu'il faut quand même être au top quand
Ben,
même.
faut être vif.
Alors.
Là, faut être assez vif, quoi, sur, vu
Ouais.
qu'on est un peu dans l'impro, quoi. Donc, enfin, une sorte de mélange d'impro, quoi, d'impro et d'écrit, quoi. Donc, faut quand même pas être, faut être un peu reposé, quoi. Enfin, faut.
Qu'est-ce que t'en
Alors,
penses, Desparette?
si tu veux tenir la ligne comme sur les autres séances où t'es pas fatigué, tu risques fort de te gaufrer. Le retour qu'on en a fait, c'est effectivement le cas. C'est si t'es fatigué, pas vif, tu te plantes. Je pense que la meilleure solution dans ce cas-là, c'est de prévoir à l'avance des parties de jeu qui peuvent être un peu plus linéaires et auxquelles on aura pensé bien en amont, du type, voilà, jouons une scène de flashback à telle et telle époque, et là on part sur un scénario tout à fait linéaire et calme.
D'accord.
Et justement pour briser le rythme et rajouter encore plus de chaos dans cette structure.
Va me demander énormément de boulot. Et
En fait, je pense.
seulement le garde-fois, j'ai vraiment très, très bien connaître l'ensemble des parties, des jeux, des personnages. Où, moi, ça me plaît assez.
Sergi, moi j'ai du mal, là j'entends pas.
Ah, je croyais que c'était que moi. Vous étiez un peu coupé, vous aussi?
Ouais, un peu, mais j'ai quand même compris l'essence de ce que
Vas-y,
tu dis.
vas-y, alors, des sprites.
Je pense que encore une fois, il faut pratiquer le lâcher prise. Et plutôt que d'essayer de tout maîtriser en connaissant tous les paramètres et tous les personnages, je pense qu'il faut mieux se baser un sur ses souvenirs, et deux, sur son inspiration du moment. Ne pas hésiter à brouiller les pistes, à rebondir sur des trucs qui se sont déjà passés, ou carrément à couper court à une piste qui semblait crédible. Je pense qu'il faut vraiment plus avoir confiance en soi qu'avoir une bonne mémoire.
Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais qu'on est sur de l'impro assisté, quoi.
Ouais.
Juste pour avoir une idée, les lieux qui sont décrits, c'est partout dans le monde.
Ça se situe principalement au niveau de la Nouvelle-Angleterre, mais on a des références type Kingsport, voilà, c'est des lieux qui sont plutôt impersonnels et qui peuvent être casés n'importe où, du type club privé, ville de campagne, ville côtière, sanatorium, club classe, observatoire, etc.
D'accord. Fox, une remarque ?
Ouais, bah, moi, ouais, j'en ai une. Bon, tu l'as pas fait jouer, mais on t'a dit que pendant un an et demi, à quel rythme aussi? Une partie par semaine, une partie par mois? Parce que j'ai du mal à imaginer quand même que tu tournes pas en rond au bout d'un certain temps.
Alors c'était une partie par semaine.
Quand même. Quand même.
Ah ouais.
Parce que Ouais, vas-y.
Et juste pour rajouter,
par rapport à ça.
C'est MJ que je connais bien, qui n'est pas un monstre d'improvisation. Il se débrouille, mais c'est pas son point fort premier.
Et pourquoi il a voulu jouer cette campagne?
Il a été séduit par l'aspect modulaire et le fait de pouvoir faire tourner quelque chose autour du groupe de joueurs et de construire quelque chose avec eux.
C'est ça que je trouve un peu dérangeant, c'est que j'ai l'impression que l'intérêt de ce format-là vient d'une espèce de frustration des scénars classiques. Et c'est toujours ce qui m'a étonné un peu dans les gens qui veulent inverser le dé, mettre les joueurs à la place du MJ, retourner l'écran, mettre les chaises à l'envers, enfin essayer de retourner notre média. J'ai jamais moi ressenti, alors peut-être que mes joueurs ils sont super sympas, ils m'en ont jamais parlé, mais j'imagine que c'est les gens qui aiment comme toi ce genre de choses là, c'est un peu des gens qui peuvent pas aller voir Indiana Jones, quoi. Parce que on sait qu'il s'en sortira. Donc c'est quoi l'intérêt? Tu vois, c'est on va pas avoir James Bond parce que bon, on peut avoir des twists, mais on sait ce qui va se passer. Pour moi, le côté prévisible n'empêche pas la créativité des joueurs.
Mais tu peux pas faire une intrigue dans laquelle on parle de paradoxes spatio-temporels. Si tu veux rester cohérent en gardant une trame purement linéaire, c'est inadapté.
Ouais, mais
sans aller forcément sur un truc ultra linéaire, tu peux avoir une trame qui justement va bouger les joueurs, mais toi tu restes sur un truc qui est à peu près fixé, quoi.
Parce que enfin, l'idée qu'il y a derrière ce que tu nous as expliqué, hein, parce que c'est quand même, il y a aussi un effort de compréhension à faire vu que c'est pas quelque chose de courant, c'est finalement de se dire il y a une espèce de maillage d'objets, de personnes, de lieux, et tu mets tes joueurs au milieu et tu les laisses, je dirais, suivre en fonction le maillage, c'est-à-dire que dans un lieu, ils vont entendre parler d'un objet, ils iront voir l'objet qui va peut-être les ramener sur un PNJ, qui leur parlera d'un autre lieu, c'est un peu ça l'idée.
Oui, mais en s'imaginant que chaque objet, chaque entité, chaque lieu soit lié à d'autres entités par des câbles. Et donc dès que les joueurs se mettent à bouger, ils font tomber des choses, ils entraînent des réactions en chaîne, et c'est comme ça que ça se passe autour. C'est pas statique.
Tu veux dire des choses qui se passent sans qu'ils soient là ou...
Oui, tout à fait. Oui, il y a des choses qui se produisent alors qu'ils s'ils n'interviennent pas ou s'ils interviennent trop tôt ou trop tard, il y a des personnages qui changent au fur et à mesure de l'intrigue, c'est prévu.
Mais justement, ça c'est pas un point faible, c'est-à-dire que à part le gardien qui s'en rend réellement compte, les joueurs ils sont pas un peu dans le on va dire dans l'expectative par rapport à ça. En gros, le gardien voit une scène des scènes se dérouler en arrière-plan sans que les autres le mesurent réellement.
Ouais.
Ce qui encore une fois le point fort, c'est que le MJ garde toute latitude pour accepter ou non ce qui se passe en coulisses. Donc si quelque chose l'ennuie, il peut le balayer. Je sais pas si je réponds à ta question.
Ouais, et moi, en fait, ça me lève une grosse ambiguïté sur cette façon de faire, c'est que, je dirais, contrairement à ce que tu dis, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'être un bon MJ d'improvisation, parce que autant, dans un scénario, je dirais, un peu plus linéaire, tu dois te fier à une ligne, t'as des guides, donc, l'improvisation, il va falloir la recadrer. Tu peux faire des choses. Tout le monde en a fait dans toutes les parties. Mais il faut que tu reviennes. Alors que là, tu fais ce que tu veux. Tu vois, l'exemple que tu donnais, finalement, pour moi, il dessert. Elle s'appelait Morissette. Non, non, elle s'appelait Roberta. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous. Enfin, pour moi, c'est on donne des clés on donne des clés pour expliquer les erreurs ou les flottements. J'ai un peu l'impression, tu vois. Et puis de se dire, moi c'est ça qui me gêne un peu, c'est de se dire on se repose beaucoup sur les joueurs. Et à moins que ton groupe soit vraiment homogène, mais imaginons que t'es un joueur qui soit un peu passif, il va se faire chier, quoi. Est-ce qu'il
Dans
va
le
pas
groupe.
suivre? Est-ce qu'il si t'as un gros leader qui est à fond sur ce type-là, est-ce qu'il va pas prendre la main à chaque fois?
On m'a décrit le fonctionnement du groupe de la campagne en question, et il y avait une joueuse qui passait beaucoup de temps à écouter ce qui se passait, qui n'était pas super active. Et elle avait toujours dit que ça lui convenait et qu'elle, ce qu'elle aimait, c'était essayer de comprendre et tout ça. Enfin bon. La campagne permet facilement, très facilement, de solliciter les joueurs qui ne font rien. Et le retour qui m'en a été fait, c'est que cette personne, enfin cette joueuse, comme les autres personnages à table, a eu vraiment eu ces moments forts. Dans le groupe en question, en tout cas, personne n'a lâché l'affaire. Et visiblement, même s'il y avait des joueurs qui étaient plus flamboyants que d'autres, il n'y a pas eu de retour à ce niveau, tu vois.
D'accord. Et ce qui moi, enfin, pourrait me déranger. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'en quelque part, les joueurs, faut pas qu'ils sachent qu'ils sont dans un scénario un petit peu, un peu linéaire. Enfin, que leurs agissements, pardon, interfèrent sur le monde, quoi. Enfin, faut pas qu'ils soient au courant de cette partie-là de la campagne, quoi.
Pourquoi?
Ah ben ouais, parce que je trouve moi
C'est un
je
peu
trouve
comme dans le vrai monde, en fait.
oui
Tes agissements ont des conséquences.
ouais d'accord, mais bon, de savoir qu'il y a pas réellement de on va dire de fil conducteur, enfin qu'il y a pas de il y a pas une réelle intrigue derrière, on est d'accord.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais moi des
Ça
fois
peut induire un flottement chez eux. Enfin, ils peuvent se dire, je sais pas quoi rechercher, donc du coup,
voilà, mais après,
ouais.
parce que moi, par exemple, en tant que joueur, le plaisir que je peux avoir, c'est un petit peu comme quand je regarde un film, c'est de découvrir l'anguille sous roche, quoi, de découvrir le fin mot de l'histoire.
Bah,
Et
tu peux,
finalement.
mais tu vas devoir le faire en temps réel avec le MJ.
Ouais, mais il y a pas de réellement fin mot de l'histoire, quoi. Au début de l'histoire, on sait pas ce qui. Enfin, le MJ ne sait même pas ce qu'il en est, quoi. Alors, est-ce que le fait. Je sais pas si moi, par exemple, si je faisais jouer cette campagne, si je leur dirais qu'elle est comme ça, quoi.
En fait, le fil caché, est construit à plusieurs au fur et à mesure. Et petit à petit, il se dessine quelque chose de cohérent. Par exemple, le gars qui l'a fait jouer m'a dit au bout d'un certain temps, voilà, ben je vais plus m'orienter vers un trip Azathoth. Nyarlathotep sera aussi présent, il y aura quelques interactions, mais globalement, ça sera un trip Azathoth. Et ça, il l'a choisi au bout d'un moment, à force de jouer.
D'accord, on est au bout d'un. Ouais, faut bien que. Ouais, faut
En
avoir une.
réalité, pour Virtuosep, pour citer du Desparais dans le texte, le but et le plaisir de cette campagne, ce n'est pas de dénouer une intrigue, mais c'est plutôt
La construire.
de la construire et de faire
Ouais.
que tout le monde. Putain, je fais du Desparais dans le texte là.
Oh, c'est beau.
C'est de la construire et finalement de chaque personne insérer ce qu'il souhaiterait y trouver. Alléluia.
Qu'est-ce qui a fait la critique là? C'est vous ou des sprites?
C'est des sprites.
C'est
bon. C'est bon. C'est...
Alors, non, non, non. Non. Si nous sommes petits, surtout, on le noie.
Vous avez vu, on ne parle jamais ensemble. Nous sommes la même personne.
Le problème de ces choses-là, c'est que moi, je dirais que c'est très intéressant.
Ah non, non, ça, c'est pas du tout que c'est ça, pas intéressant. Hein, mais
Non, non, mais je dis pas ça. Non, mais je dis que c'est très intéressant. Le seul problème, c'est que ces choses-là sont toujours faussées, parce que comme elles sont nouvelles, comme elles sont assez complexes, elles attirent forcément une élite. Une élite, c'est vrai, une élite de gens qui veulent s'impliquer, que ce soit côté gardien, que ce soit côté joueur, et je trouve que on les voit forcément dans un prisme. Pour moi, le prisme vont-vient, c'est noirceur, c'est-à-dire, ça va me faire chier, c'est pour de l'élite branlette rôliste. Par contre, tu as le prisme plutôt des sprites, c'est-à-dire éclairant, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de jouer, une nouvelle expérience. Donc, soyons très honnêtes, je pense qu'il faut donner sa chance au truc. La seule difficulté, je dirais, c'est vraiment d'avoir les joueurs en face qui vont répondre aux sollicitations et qui vont les générer eux-mêmes. Tu vois, on parlait de la maison reste ouverte pendant les travaux, rien que le premier chapitre, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on va pas te guider sur des pistes. Par contre, c'est clair, t'as une trame. C'est-à-dire que tu sais où faut que t'amènes les joueurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de gens, finalement, ne vont exprimer leur créativité, ou ne vont laisser les joueurs exprimer leur créativité que dans un système différent du jeu de rôle classique. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on peut tout à fait le faire dans un jeu de rôle classique. On sait qu'on arrivera à un endroit. Le seul truc, c'est que voilà, c'est que le gardien, il a lu qu'au bout d'un moment, ils arriveront à cet endroit-là. Et la différence, c'est que dans ce que tu décris des sprites, on sait pas où on va arriver, encore que je pense qu'il y a le but, c'est quand même de défaire l'affaire Armitage. Qu'est-ce qui lui est arrivé, d'où viennent ces lettres du futur et tout ça, non, c'est, il y a quand même un but.
Il y a une fin, quoi.
Voilà, il y a une fin.
Oui, il y a une fin, c'est d'empêcher, enfin déjà de comprendre qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a vraiment, le monde est au bord de l'apocalypse, que ça va venir des grands anciens, et de l'empêcher.
Alors, voilà, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est hyper classique.
Ouais.
Oui.
Mais vas-y, Fox.
Moi, en fait, ça me rappelle certaines séries télé que tu regardes épisode par épisode, des fois un peu t'es pris dedans parce que tu trouves ça extraordinaire, et quand tu regardes l'ensemble, tu retrouves un truc assez mal ficelé. Alors, oui. Je m'explique, c'est-à-dire que chacun construit son truc. Alors, je comprends que les gens, ils peuvent avoir une certaine synergie, un amusement, parce que tout le monde a l'impression de construire la campagne, machin, je vais rajouter ce petit truc, tiens, hop, je vais mettre un petit coup d'azatote. Ah, puis merde, elle s'appelle pas Mireille, elle s'appelle Juliette. Mais attention, c'est normal. Et en fait, quand tu regardes à la fin dans le truc en ensemble, ça fait un truc un peu château branlant, qui a pas obligatoirement de la cohérence si ça n'a pas été travaillé. Alors attention, hein, un super gardien et super joueur peuvent peut-être y arriver, mais alors là, ça demande, à mon avis, un travail énorme. Et quand t'arrives à la fin, en plus c'est l'impression que ça allait me donner, ça me fait penser à Lost, tu vois, où à la fin tu sais pas quand ça va se finir, et puis bon, il faut bien finir à un moment, et puis voilà, tu dis bah en fait, ouais, bah il y a des grands anciens, ils vont détruire le monde, il faut essayer de l'empêcher. Ah ok, ouais, d'accord. Tout ça pour ça.
Le côté peut-être des pistes que, comme tout à fait l'analogie avec Lost, des pistes que certains joueurs ont fait monter, et finalement, comme elles ont pas été poursuivies du fait de la synergie de la partie, on va les laisser de côté et on va se dire, bah, c'est vrai, tiens, au fait, on était parti là-dessus, on a jamais su pourquoi cet objet était tellement intéressant, ou des choses comme ça, donc qu'est-ce que t'en penses des sprites?
Je pense que cette campagne a effectivement un potentiel de flop en termes de cohérence, comme Lost, où finalement les scénaristes se sont un peu marchés sur les pieds et n'ont pas réussi à renouer les éléments à la fin. Je pense vraiment que dans cette campagne, on peut vraiment aboutir à un échec, à quelque chose qui soit pas satisfaisant, à perdre pied. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est un risque qu'on prend. On peut pas être épargné de tomber là-dedans. Par contre, je pense encore que si une campagne, comment dire, je pense que cette campagne est respectueuse d'un principe essentiel à une table de JDR, c'est l'alchimie humaine. Et j'insiste encore là-dessus, quand on est dans une linéarité des événements qui est prévue à l'avance, notamment, je pense, je reprends l'exemple que j'avais donné la dernière fois avec les montagnes hallucinées, qu'est-ce qui se passe quand les joueurs arrivent sur la banquise, mais l'un d'entre eux a envie de faire un coup d'état et de faire un deuxième camp un peu plus loin? Avec une campagne classique, c'est pas possible. Et donc on va essayer gentiment de repousser les joueurs dans les cordes, ou bien d'aller un peu dans leur sens, et puis après de voir une campagne qui s'essouffle. Ce que j'apprécie avec Hermitage, ou du moins avec ce modèle de campagne, c'est que on peut continuer à proposer un jeu riche et intéressant en respectant vraiment ce que les joueurs veulent faire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de changer un nom et puis de le recoller 2 heures plus tard, mais vraiment de se dire, bon, ok, ils veulent pas aller enquêter sur les larmes d'Azathoth dans la secte de l'Aube Dorée, ils veulent plutôt aller voir Rodger, le flic véreux, ok, on y va. Et puis j'ai de la matière à leur proposer, j'ai du ressort, on peut rebondir, et quand les joueurs à table vont dire, ah, mais si ça se trouve, le mec... c'était son frère jumeau. Mais là, tu peux rebondir vraiment dessus.
Alors.
Et construire sur leurs suppositions.
Des sprites, je vais te dire un truc. Vas-y, excuse-moi, faut que je t'ai coupé.
Et justement, je pense que c'est ça qui est un peu trop poussé à l'excès. Je pense que ce soit qu'on prenne les montagnes ou Hermitage, on est dans deux excès. Et je trouve que ce qu'il y a de bon, c'est toujours au milieu. Hein. D'ailleurs, c'est souvent ça. Dans beaucoup de choses.
Alors.
Et je suis sûr que les gens peuvent vraiment prendre leurs pieds, tant mieux, hein, parce que c'est le but quand même du jeu de rôle. Et si tu regardes ce truc avec un peu de recul, toi tu peux être un peu plus dubitatif. Hein. Alors je pense qu'il faut que ce genre de campagne, il faut la monnaie au bon moment, avec les bonnes personnes, au moment où tu en as envie. Mais pour en faire vraiment quelque chose de qualité, je pense qu'il y a un travail bien énorme que de la simple impro et de la facilité d'accès telle que tu l'as peut-être présenté au départ.
Alors. Moi, j'ai une question des sprites, en toute honnêteté intellectuelle. Imaginons, je prépare une campagne, d'accord? J'ai des lieux. New York, un petit club au fond de New York, noir, avec des mecs un peu bizarres. J'ai une maison plutôt type anglaise, avec une belle famille et tout, assez riche. J'ai un petit village au fin fond de l'Afrique. J'ai des gangs, et puis des fumeries. Dans une contrée plutôt asiatique, je te mets des ouvrages, des ghouls, Liber Ivonis, le Necronomicon, des choses comme ça. Je te mets des objets, une momie, des couteaux un peu de sacrifice, des statues, une montagne, des choses comme ça. Je te mets des personnages, tu vois, genre un playboy dans une expédition avec une nana un peu qui le manipule. Je te mets un professeur qui est un peu perdu en Australie, qui fait des conférences, tu vois. Imaginons, je te mets tout ça ensemble. Je te lance dans l'aventure en disant, voilà, on commence, on est à New York, dans les années 20. Il y a un ami qui vous a appelé à son chevet. Il a quelque chose dont il veut vous parler. Et ça se passe, chambre 410, dans l'hôtel Chelsea. Franchement, je te présente ce que je viens de te dire, donc la campagne des masques de Narathotep, et je te dis une campagne de type super ouvert où vous faites ce que vous voulez. Est-ce que tu te ferais pas avoir? Et est-ce que tu ne te créerais pas cette liberté d'action parce que je t'ai dit que c'était ouvert? Tu vois ce que je veux dire?
C'est beau, ouais. Ça. Ouais, écoute, c'est...
Très honnêtement, je te dis pas que c'est écrit, je te dis voilà, c'est un nouveau concept. C'est complètement ouvert, j'ai des personnages, des lieux, des objets, des livres. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant, que je mettrai une bonne note à ta campagne, mais que j'ai envie d'enlever le vernis, on brise tous les tabous et on change tout.
C'est vraiment pas sous cet angle. C'est, quand je parle de quelque chose de nouveau, je parle pas, il s'agit pas d'une médaille pour les joueurs qui y jouent, tu vois. Il s'agit pas non plus d'une médaille pour les MJ qui le font. D'ailleurs, je connais très 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 peu de MJ qui ont fait jouer cette campagne. Et de toute manière, quand tu l'as fait jouer, les joueurs ne sont pas censés savoir quelle est la structure du livre derrière, sauf si le MJ leur dit. Il s'agit pas de jouer à la campagne Hermitage pour dire ouais, j'ai fait un truc super nouveau et tout ça. Ça c'est un plan de poseur. Je pense qu'il peut y en avoir, mais je pense que ça ne présente pas vraiment d'intérêt.
Ouais, mais c'est justement pour ça que je disais que tout à l'heure, moi je trouve que c'est important que les joueurs ne sachent pas.
Ne sachent pas. Je suis d'accord avec Seb.
Ouais, pour moi, faut pas qu'il sache ça parce que ça perd un petit peu son l'intérêt de découvrir l'anguille sous roche, quoi. De
Oui.
se dire que finalement c'est le MJ qui invente au fur et à mesure fait que ben ouais, il y avait pas réellement une vraie intrigue, quoi.
Est-ce que tu
Et qu'elle s'est inventée, moi je pense qu'il faut pas le savoir.
est-ce que tu
Ouais.
sais si le maître il l'avait présenté, le maître avec qui t'en as parlé, comment il l'avait présenté à ses joueurs, tu le sais ou pas?
Non, pas dans le détail.
D'accord.
Il semble pas qu'il leur avait dit,
Moi
qu'il
je
leur
pense
avait
que
parlé de ces éléments.
moi je pense moi pour moi ça serait une erreur de le faire, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il faut pas qu'ils sachent. Et là, oui, là, pourquoi moi j'achète. S'ils savent que le monde est modulé un petit peu par rapport à ce qu'ils font et que c'est finalement un petit peu d'impro et aussi pas mal d'impro, ouais. Parce que moi, je sais qu'en tant que joueur, j'ai un petit peu ce plaisir-là, quoi, d'aller enfin découvrir le poteau rose, quoi. Donc.
Pour moi, la présentation que tu fais, au-delà d'une nouvelle façon de jouer, je dis pas que c'est ça que tu dis, hein, c'est ça que tu défends, mais je dirais que c'est plutôt une nouvelle façon de présenter une campagne.
Ouais, entièrement
Ah.
d'accord. Ouais.
C'est de se dire voilà, faut lire les trucs les uns après les autres, et puis c'est chiant parce que voilà, ils sont censés aller à Shanghai après être allés à Nairobi et tout ça.
Je grossirais même, hein. C'est une structure qu'on avait dès le début des jeux de rôle, hein. On décrivait des pièces, on décrivait des monstres, et puis on décrivait des trésors, hein.
Oui.
Pas mal, pas mal, c'est pas faux ça.
Sauf qu'on avait l'agencement sur le papier, qu'on savait que ce couloir menait à cette pièce.
Ouais, on a tous retourné le plan, quoi.
Oui, puis même, on s'est tous retrouvés avec la soirée qu'on a super bien bossé et puis que nos joueurs ont résolu en 5 minutes, quoi.
Et ça, là, s'agissant, je trouve que tu lèves aussi un truc. Alors c'est pas un défaut, mais c'est aussi le fait que tu peux te faire cuire par tes joueurs, quoi. C'est-à-dire que ce que t'as préparé, comme tu sais pas trop par où ils vont y arriver, ils peuvent y arriver super vite.
Mais justement, l'idée, c'est de ne pas préparer.
Ouais.
C'est de ne pas se dire, ah, maintenant, ils vont arriver dans l'asile où les fous ont pris le pouvoir. Voilà. Non, c'est
Ouais,
simplement de le
mais.
découvrir pendant qu'ils rentrent dans l'asile. Au bout d'un moment, il va y avoir une interaction étrange et tout d'un coup, les joueurs vont dire, bon, bah, je vais essayer de me trouver une arme. Et là, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent trouver une arme et tu dis, ok, ils soupçonnent que le personnel de l'asile sont peut-être des fous. Et ça te donne un ressort sur lequel tu peux t'appuyer. T'es pas obligé de le faire, mais tu
D'accord.
construis la chose de manière dynamique.
Est-ce que c'est pas déjà le but d'un MJ? C'est-à-dire que quel que soit, enfin, mon sens, quel que soit le jeu de rôle, le jeu est là aussi au service
Mais
des joueurs.
alors
Donc
là,
effectivement, s'ils partent, tu parlais des campagnes, s'ils décident de partir à droite alors qu'il faut aller à gauche, ben, soit on fait un gros mur et puis on frustre nos joueurs. On part dans leur délire et puis on essaie de les ramener inconsciemment, plus ou moins avec facilité sur les rails.
Sauf qu'avec une structure classique, tu dois remuer la moitié du monde au pied de biche pour que ça cadre à ce qu'ils font, alors que avec la campagne Hermitage, tu fais ce que tu fais à toutes les autres séances.
Ouais. Alors, moi, ce que j'ai un peu l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une analyse vont-viennent. Mais le truc, c'est que les Américains, enfin, c'est quand même des mecs, gloire leur soit rendue, on leur a dit, vous allez sauver des types qui habitent dans un pays que vous connaissez pas, il fera froid, ils sont cons, ils bouffent des camemberts, vous allez tous mourir, on leur a dit ça, mais c'est pour sauver la liberté, allons-y. C'est des bœufs. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai l'impression que si on jouait avec des maîtres, des gardiens américains, on serait super déçus. Je sais pas si vous avez déjà vu des podcasts de gardiens américains, mais ils sont hyper linéaires. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des bœufs qui ont joué à Donjons et Dragons pendant des années et des années. Le plus gros succès de l'Appel de Cthulhu, ça n'a pas été en Amérique, ça a été en France. J'ai un peu l'impression que l'espèce de découverte qu'ils font en ce moment de se dire, mais au fait, on peut carrément tout improviser, tout faire péter. Pas qu'on le faisait tous les jours, mais j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose que nous, Frenchies, un peu, tu sais, rebelles, frondeurs et tout, on faisait
Feignant.
déjà. Et feignants, on faisait déjà. Je sais pas si mon analyse est toute pourrie ou.
Moi, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, parce que moi, je l'ai repris là pour le survoler en même temps que Desp faisait la description. Et l'impression que je me suis dit, c'est que pour faire ça, j'ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin d'un bouquin comme ça qui m'explique en fonction des PNJ qui existent, comment ils vont se comporter, s'ils sont gentils, méchants ou ils ne font pas peur. J'ai l'impression que j'en suis capable par moi-même. Alors, c'est là que je prendrai la défense de cette campagne et où je rejoins ce que tu as dit d'Esp au départ. C'est pour quelqu'un qui a pas trop l'impression d'improviser, qui cherche effectivement à avoir un peu d'outils pour créer en fait sa propre campagne. En fait, c'est un outil pour créer sa propre campagne. C'est peut-être là où en fait est sa force. Et là aussi, je te rejoins, Von, c'est que c'est peut-être une manière, lorsque cette campagne a été créée, de casser des codes, en fait, que des gens qui ont plus d'expérience le font par eux-mêmes en construisant leur propre campagne. Et c'est ce que tu fais quand tu construis ta campagne, tu l'adaptes clairement à tes joueurs, à la manière dont ils vont le faire, tu vas l'écrire au fur et à mesure, etc. C'est l'impression que ça te donne, Desperit?
Oui, je te suis.
Ça la rend d'autant plus intéressante. Autant au début de ta description, je me demandais, autant ça la rend d'autant plus intéressante parce que voir un peu comment c'est décrit, comment c'est foutu, juste pour avoir une idée. Donc finalement, quand ils décrivent un objet, ils vont pouvoir dire telle personne l'a lu et hop, on va se diriger vers un PNJ ou alors il a été stocké dans telle bibliothèque et toc, ça peut faire une piste vers un autre lieu. C'est ça un peu l'idée?
Écoute, je vais juste prendre un exemple. On va voir ce que ça donne.
Ah yes.
Pour un objet, ils te font une description, donc à quoi ça ressemble, quelle est l'histoire de cet objet, et ensuite ils te font plusieurs descriptions, des propositions. Si vous voulez que cet objet soit considéré comme un objet majeur dans la campagne, donc quelque chose de très intéressant, l'équivalent de Necronomicon, donc voici comment vous pouvez le traiter. Est-ce que c'est un objet mineur? Et dans ce cas-là, voici aussi quels sont les pouvoirs qu'il peut apporter. Et enfin, est-ce que c'est un objet qui est un faux? C'est-à-dire c'est un objet dont on dit qu'il a certains pouvoirs ou certaines propriétés, mais en fait pas du tout. Et enfin, derrière, on te donne le nombre de références à cet objet dans les aides de jeu. C'est-à-dire combien de fois on va évoquer cet objet au sein des props.
D'accord. Parce que là, il y a un gros intérêt. C'est vrai que par rapport à moi qui suis premier à gueuler quand on me file des scénarios sur Toc où c'est vachement linéaire dans la description, là c'est vraiment ce qui peut être intéressant comme façon d'écrire un scénario. C'est pas de se dire il se passera ça, puis ça, puis ça, puis ils verront telle chose, puis ça, mais plutôt de se dire quand ils auront récupéré cet ouvrage, ça risque de les mener vers ça, vers ça. Quand ils verront cette personne, suivant comment ils lui parlent, elle risque de les emmener vers ça ou vers ça. Donc, ce que tu disais au début, quoi, l'espèce de maillage de pistes, de lieux, d'idées, de personnages et tout ça, et finalement, d'accord. Ouais, c'est ça.
D'où le sentiment un peu, je construis ma campagne pour les nuls, quoi. Je sens que ce soit péjoratif.
Ouais, non, mais c'est vrai
Non,
que
mais et,
c'est vrai que je prendrai presque ça le jour où je suis fatigué pour le coup.
Mais c'est pas faux, c'est pas faux parce que c'est pas
je
faux
sais
parce
pas
que
comment
dans
faire je sais pas comment faire un PNJ. Ah ouais, tu es plutôt agressif. Bon, allez, hop, PNJ, agressif. Voilà. En fait, pour
Mais
le
y a...
coup, moi j'ai presque envie de prendre ça comme étant un immense bac à sable le jour où je suis fatigué.
Et c'est pas faux ce
Sans
que
que ce
tu
soit
dis,
péjoratif, hein.
Fox, c'est que autant par exemple quand tu lis les campagnes classiques, genre les masques ou tout ça, on va dire bon bah tel personnage, voilà comment il se comportera, mais comment il se comportera en ayant présupposé comment les joueurs vont l'attaquer, comment ils vont se. Alors que là, finalement, on t'offre d'autres possibilités et on te force pas à le décrire d'une telle ou telle façon. Là, on te t'amène sur un plateau les différentes façons par lesquelles il pourrait être abordé, mais ça reprend tout à fait d'ailleurs le fondement de Trail of Cthulhu, c'est-à-dire que Trail of Cthulhu, tu découvriras forcément les indices. La seule chose, c'est la façon dont tu primeras pour y aller. Mais tu es dans la bonne pièce au bon moment et tu cherches au bon endroit, tu trouveras l'indice. C'est le challenge. C'est pas de réussir son jet, parce que je pense que ça va être une campagne où on doit faire assez peu de jet de dés finalement. c'est pas l'intérêt. Oui. Finalement, c'est plutôt de se dire, est-ce que ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser au labyrinthe, quoi, où il y a plusieurs fins, plusieurs trucs sans issue. C'est de se dire, je suis rentré dans le labyrinthe, j'agence les pièces, mais finalement, il y a que quelques agencements qui permettent d'arriver jusqu'au bout. Et c'est là où je me demande, est-ce que, ouais, non, tu me diras, tu peux toujours retomber sur tes pieds, parce qu'il n'y a pas forcément de sans issue dans ce cadre-là, quoi.
Comme tu dis, les sous. Le film, tu vois.
Voilà, exactement. Il y a toujours une sortie, ouais.
Centré sur les joueurs, et pas aux mains d'un fou psychopathe. Hein.
Et ce qui est assez marrant, c'est que derrière des semblants novateurs, ça décuple les travers du jeu de rôle. C'est-à-dire que là, t'es complètement mégalomane. C'est même un concours de mégalomanie, quoi. C'est qui déformera le monde le plus à sa façon gagnera, quoi. Quelque part, d'accord. C'est intéressant parce que je savais pas du tout que cette campagne-là a été montée comme ça. Je me l'étais pas du tout, moi je pensais que l'affaire Armitage c'était une affaire Armitage qui il fallait mener une enquête toute bête. Je me serais fait avoir. Bon, messieurs, d'autres questions? D'autres remarques? Parce qu'il faut avouer que à la défense de Steve, il s'attaque à un gros morceau, et c'était pas gagné.
Non, non, mais là, on a discuté autour, et au sens, enfin, moi, ça me... Moi, c'est vraiment le point auquel j'appuierai, quoi, c'est vraiment qu'ils sachent pas au départ que c'est comme ça, quoi. Parce que moi, elle me fait penser un petit peu à comment je faisais mes scénarios jadis, quand j'avais pas de sous pour m'acheter moult ouvrages avec... Et que en fait, ben moi je me faisais, je prenais très très peu de notes. Je me disais, ben voilà, ça c'est le grand méchant qui va être introduit. Enfin, ils vont être amenés dans l'aventure comme ça. Et puis après, ben moi j'improvisais suivant. Moi je m'étais fait une petite, vraiment une trame très très légère. Et après je modulais vraiment sur ce qu'ils faisaient, quoi. Après je faisais de l'impro totale pour qu'ils arrivent à la fin, quoi. Mmh. Et là j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu la même chose. Pour moi c'est vraiment, pour faire très simple, en quelques mots, on est sur de l'impro aidée ou sur de l'impro assistée, quoi. Mmh.
De l'impro préparée, quoi.
Ouais. Mmh. Avec des aides, quoi, en tout du moins. Mmh. Pour te donner de l'idée, soit de l'inspiration, soit de donner une direction.
Ouais, très juste.
Mais et vraiment, si dans mon idée à moi, s'il y a vraiment quelque chose que les joueurs ne doivent pas savoir, c'est que c'est comme ça, quoi. Mm. Moi, en tant que joueur, ça me gâcherait le plaisir, quoi. Mais
surtout, je suis pas sûr qu'à la fin. Ça s'est bien passé, les joueurs seraient capables de dire que c'était une je veux dire, si t'as l'habitude de bien broder, ils seront pas forcément te dire que c'était une campagne différente des autres.
Ouais, voilà, c'est
d'habitude, ouais. D'habitude ça se passe bien, et s'ils ont l'impression que tu les mènes pas trop en bateau, finalement c'est un très bon test pour un gardien, c'est de se dire, si je leur file cette campagne dans les potes, est-ce qu'ils vont me dire, ah putain, maintenant on veut faire que ça, c'était génial. Là tu te dis, putain, tout ce que je leur ai fait avant, ils ont pas aimé. Par contre, s'ils disent, ah putain, elle était top, on a retrouvé un peu ce qu'on avait fait sur les montagnes, ça serait dur quand même. Mais mettons, je sais pas, sur une campagne plus ouverte.
Dis-le, allez.
sur l'Orient Express, vas-y, balance.
C'est vrai,
que vous m'inviterez, hein, ce jour-là.
C'est un bon test. Bon, ben messieurs, s'il n'y a pas d'autres remarques, tout ça, c'est good pour vous. Donc, on va faire un petit tour de table. Monsieur Fox, quelle note pour
ce... Alors, je suis assez partagé. Pourquoi ? Parce que j'aurais tendance à dire, soit j'achète une campagne pour mettre et pour l'avoir de A à Z et puis pas trop me prendre la tête, soit je préfère l'écrire par moi-même. Donc, mais en même temps, je salue le travail qui permet à un gardien d'être accompagné dans ses travaux d'impro. Allez, donc je lui mettrai entre 2,5 et 3.
Sergissant.
Alors en fait, je suis comme Fox, je suis un peu partagé parce que j'ai moyen d'avoir quelque chose de sympa. Mais en fait, mis à part le cadre, j'ai presque envie de dire what else, quoi. Et ben, non, sérieusement, je suis pas un jeu exemplaire. Hein. Je prépare pas mes scénars. C'est préparé à la va-vite le midi pour le soir pendant ma pause. Donc en fait, j'improvise déjà énormément.
Mais c'est fait pour toi. C'est fait pour toi, alors.
Ah oui, quelque part.
Justement, en fait, le jour où je suis fatigué, je pense que je prendrai ce genre de choses. Et puis, j'ai envie de faire un donjon aléatoire à la D&D. Donc je suis pas super emballé. Moi, je mettrais peut-être deux. Parce qu'il y a peut-être moyen d'avoir pas mal d'idées. Mais je pense que derrière, il y a tellement de boulot que faut réécrire entièrement une campagne, quoi.
Virtual 7 de ton côté?
Je serais hésité entre dire entre 3 et 4. 3 parce que en fait voilà, c'est pas une réelle écriture. Enfin c'est pas un scénario défini. Et je pense que pour vous donner une vraie note, quoi, faudrait que je le lise, quoi. Là, comme ça, j'ai vraiment du mal à me prononcer sur une note, quoi, finalement.
D'accord.
Alors, lire et savoir, vraiment voir ce qui
comment c'est foutu,
ouais. Ouais, comment c'est foutu, ouais. Pour vraiment donner une note.
Moi, de mon côté, en tant que gardien, je donnerais 2. Parce que, autant j'improvise, mais j'improvise autour d'une ligne. J'aurais du mal, je pense. Donc vraiment, c'est vraiment dans le doute que je mettrais 2. Par contre, en tant que joueur, je serais très intéressé. En tant que joueur, je pense que je mettrais 4, parce que avec une bonne équipe, je voudrais voir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que...
Et ouais, mais tu serais joueur, tu serais pas calé comme ça. Moi, pour moi, l'intérêt, c'est qu'il faut pas savoir calé comme
ça.
Ah
oui, non, mais sans le savoir. Voir, c'est vraiment, c'est la jouer pour la jouer, voir ce que ça peut donner. Et par contre, voilà, on est tous d'accord que ça sous-tend un gardien qui a quand même les épaules, et puis des joueurs qui sont prêts à tous converger dans le même sens et à être moteurs, quoi. Mais en tant que joueur, ouais, j'ai 4, parce que ça m'intrigue de savoir finalement de cette espèce de confrontation de ses propres capacités et les capacités de son équipe à confronter aux capacités du gardien pour faire converger tout le monde, quoi. Il y a une vraie gestion de groupe, je pense, de la parole, de la façon dont les joueurs évoluent. Donc ouais, pas tellement en tant que gardien, mais en tant que joueur, ça m'intéresserait. Bon, bah dis donc, Steve, bien joué. T'as quand même réussi à caser quelque part un petit peu de narrativisme.
Ah, vous avez été cool, les mecs.
Bah ouais, mais t'as bien... Alors,
on essaie de les pas trop là.
Non, mais t'as bien dévenu. T'as bien défendu le truc, et c'est vrai que c'est assez intrigant, je vais regarder.
J'ai un pote qui est en couverture de la campagne, Fabien Savelli, si tu nous écoutes.
C'est vrai?
Mais j'étais en photo pour la couverture.
Ah, c'est pour ça, arrêtez, tu connais, voilà, c'est backstage, ouais, quoi.
J'ai un peu de thune, tu sais, c'était pour le petit billet.
D'ailleurs, j'ai pas suivi, c'est une campagne officielle de Trail of Cthulhu, ouais. D'accord.
Mmh. Ouais. Ah oui, c'était sorti officiellement et tout ça, ouais.
D'accord. Donc c'est un ouvrage payant, tout ça.
Bah
tout
disons que c'est... Ouais.
Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... Non, ce que je voulais souligner, c'est pas quelque chose, un scénar que... Enfin, une campagne qu'on peut retrouver.
Il faut payer pour ce truc.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas la retrouver sur Tok, quoi.
Non, il veut plus.
c'est fini ces choses-là. Non, mais moi, le seul problème de cette chose-là, c'est con, hein, c'est con de ma part, mais c'est tout cette hype sous-entendu qui fait que il faut trouver ça à minima étonnant, quoi.
Je crois pas que les hipsters du JDR se sont arrêtés dessus, ça demande trop de boulot. Donc en fait.
Tu crois?
Ah. Moi, je vois très très peu de pubs pour cette campagne. En fait, je trouve presque quasiment personne n'en parle.
Mais très honnêtement, je pense que c'est surtout parce qu'elle s'appelle l'affaire Armitage. Personne, comme disait Virtua Seb, finalement, ça la joue bien. C'est que personne se doute que c'est quelque chose de différent d'habitude. Je pense. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je pense un peu si moi là je avant ce soir je savais pas du tout si c'était un truc différent d'une campagne classique. L'affaire Armitage, je m'étais dit c'est une affaire autour de la femme.
Ou alors elle est pas beaucoup jouée parce que finalement quand les MJ ont fini de la lire, ils se disent non, je suis pas orienté ici et finalement ouais. il la joue pas quoi.
Je pense que ça doit être déroutant pour pas mal de gens. Et je peux comprendre.
Après, ben voilà, pour revenir à ce que je disais, ça va m'aider peut-être à donner ma note. Je disais, je demandais si c'était quelque chose de payant ou de complètement libre. Mais c'est justement, je trouve ça scandaleux. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à nous faire payer à nous faire payer quelque chose qu'on n'a pas été fichu de terminer. C'est complètement scandaleux. Et Destera était en train d'essayer de nous vendre ça. C'est totalement inadmissible.
Par contre, j'avais une question des sprites, mais je pense que je connais la réponse.
Non, il n'y a pas la réponse.
C'est que c'est impossible à jouer en virtuel.
Bien au contraire. Non, détrompe-toi, c'est tout à fait possible.
Alors là, je vois pas pourquoi, mais.
De pas avoir le groupe, enfin, d'avoir le groupe à distance.
Bah oui, pour les joueurs, ça se présente exactement comme une campagne habituelle. C'est surtout pour le MJ, oui, c'est très déroutant.
En fait, je regardais pendant que Desprite nous vendait son petit truc. Regardez,
son scénario non terminé.
C'est en France. Et en fait, il y a sur le forum une partie justement l'affaire Armitage Online. Donc si, ça se fait en virtuel.
Ah ouais, je pensais que c'était vraiment délicat parce que, enfin, comme c'est très ouvert, il faut le truc, le problème du virtuel, c'est que t'as pas les gens en face de toi, donc tu t'as pas leur réaction tout de suite, quoi. Mais c'est vrai, sinon ça peut être faisable, hein. C'est bien cool pas, je pense.
A priori, ça se fait.
D'accord. Bon, alors, messieurs.
Sur le titre du poste, mais.
Ben là, en revanche, je pense qu'il faut que le MJ soit quand même assez expérimenté, par contre, en virtuel, quoi. Pour bien, enfin, qu'il ait bien l'habitude du virtuel
pour bien mener la partie, ouais.
Pour bien mener la partie, ouais. Vu qu'il est tout le temps dans l'impro.
Bon, ben messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Il est 0h19. Je te remercie, hein, Steve, pour ta défense d'une chose qui n'était pas facile. Et on a fait le tour de pas mal de campagnes bien différentes ce soir finalement. Et puis je pense qu'on a soulevé quand même des campagnes qui étaient fort peu connues encore. Bon, le prochain podcast, je sais pas trop, il y en a pas mal qui veulent qu'on le fasse sur Terreur sur Antexpress ou sur les masques. Pardon. Non, c'est Terreur sur Antexpress ou sur les montagnes hallucinées.
Non,
ça c'est pas ça. Moi, d'ailleurs, je le mettrai sur le forum, c'est ce que je veux de. Je vais peut-être pas dire ça tout de suite, mais je mettrai sur le forum un petit post spécial dédié sur le prochain podcast.
On s'est promis qu'on allait courir la
pièce. Il m'en veut,
il m'en veut, putain.
Ce qu'il y a, c'est que Fox, que tu sais pas, Fox, pardon, Van, ce que tu sais pas, c'est qu'avec Fox, on se voit deux fois par semaine pour te. Et à chaque fois qu'on se voit, on te pouille et on
la
essaie de.
La poupée vaudou.
Ouais.
Ah putain, c'était ça alors. Bon, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je pense que ces deux podcasts montreront que l'appel de Cthulhu est truffé de. Je dirais de classiques, d'OVNI, que vraiment il y a tout. C'est ça l'intérêt, c'est que autour de ce bon vieux HPL, on peut vraiment jouer à tout, faire de tout, faire du donge. Exactement. Faire du donge comme Dweller, il est pas là, faire du donge, enfin fond des montagnes hallucinées et faire des expériences mythologiques et euphorisantes avec des sprites dans des scénarios totalement ouverts, en passant par des classiques tout à fait standards. Le gros intérêt de ces podcasts, c'était bien de montrer que il y a pléthore de trucs à jouer, et bien sûr il y en a encore d'autres qui arrivent chez Sans Détour. Donc voilà, j'espère que pour les auditeurs ça vous a donné envie de jouer au moins une de ces campagnes. On a dû en faire combien, 8 au total, 8 ou 9 je pense, sachant qu'il y en a encore un paquet. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les forums. Et en plus, maintenant, l'intérêt, c'est que vous avez un pseudo sur les différentes campagnes si vous avez des questions particulières à poser. Ça peut être très intéressant parce que je pense que nous tous qui avons défendu nos campagnes, on est tout à fait prêts à filer des billes si jamais il y a des questions autour de enfin pour des gardiens qui voudraient les maîtriser.
Non, mais en fait on est mytho, on en a joué aucune.
Je n'ai jamais joué à la pelote de loup.
On les a même pas lus.
Je viens de lire un résumé sur Amazon. Donc messieurs, ben, je vais vous remercier de votre participation active et fort intéressante. Et puis en fonction de toute façon, je remettrai un doodle pour les prochains podcasts. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis Fungloui.
Fungloui à tous.
Grande chasse à tous.
je coupe l'enregistrement. Et...